Nous allons nous incliner dans la présence du Seigneur encore maintenant, tous ensemble devant lui. Nous allons lui demander de parler à nos cœurs et de venir au milieu de nous, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je réalise que je ne peux rien faire et rien dire sans ton onction sainte. Et que mes frères et mes sœurs ici ne pourront comprendre ni recevoir quoi que ce soit de ta part s'ils ne sont pas sous l'onction divine. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes pauvres et nous venons à toi afin que tu nous enrichisses ce soir encore. Purifie-nous, Seigneur, de tout ce qui a pu te déplaire pendant cette journée, que ton sang précieux nous lave les uns et les autres, afin que nous puissions nous tenir devant toi sans aucun sentiment de culpabilité, afin de jouir de ta présence ce soir, de jouir de ta parole aussi, et de grandir dans la foi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Reçois notre prière pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter encore « Sonde-moi, ô Dieu ». Comme ça, tout le monde le saura bien. Faisons non seulement monter cela comme un chant, mais comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'être sondés par le Seigneur. Et je le répète, lorsqu'il nous sonde, ce n'est jamais pour nous abattre. C'est toujours pour nous délivrer. C'est lorsque nous refusons d'être sondés que nous sommes découragés, que nous sommes abattus. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un sondé par Dieu, par le Saint-Esprit, être découragé. Car l'Esprit de Dieu a toujours un but de nous relever, n'est-ce pas vrai? Toujours. C'est la preuve que c'est une action du Saint-Esprit quand il vous relève après vous avoir abattu. N'est-ce pas merveilleux? Alors chantons-le encore de tout notre cœur, faisons-en une prière sincère afin que Dieu nous parle. Et il nous parlera ce soir encore. Dans notre faiblesse, que sa puissance se manifeste. Je vais demander à Dorothée de venir m'aider. Restons donc dans sa présence maintenant et regardons à lui de tout notre cœur.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais.
Regarde si je suis Dans le même esprit, nous allons apprendre un autre petit cœur maintenant. Du psaume 51, je ne sais pas si vous le savez, certains d'entre vous, mais nous allons encore en apprendre un qui reflète les paroles de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne sais pas si vous êtes dans les mêmes sentiments que moi, mais cette prière est profondément dans mon cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous le remarquez, le Seigneur va au fond des choses. Un cœur, un esprit bien disposé. Quand l'intérieur est touché, l'extérieur change aussi, n'est-ce pas vrai? Nous avons trop souvent changé l'extérieur sans toucher à l'intérieur. Et je sais, la nature humaine ne permet pas qu'on aille en profondeur dans notre être. Et dès qu'une parole nous touche profondément, instinctivement, nous nous replions sur nous-mêmes et nous disons non, jusqu'ici, mais pas plus loin. Puisse l'Esprit de Dieu sonder profondément notre cœur et nous guérir dans le fond même de notre être.
Amen.
Et je vous assure, vous partirez de cette retraite, de ces jours de vacances, profondément renouvelés. Que c'est triste de retourner dans sa maison toujours le même, rien qui change, ou ça change quelques jours, et on retombe dans le même train-train. Si vous avez réalisé cela pendant des années, je crois que alors cette prière est appropriée. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, que quelque chose de profond se passe dans le fond de mon être.
Amen, Seigneur.
Dieu le fera, Dieu exaucera cette prière.
Amen.
Comme il a exaucé la prière de David. Si vous savez ce petit cœur, vous chanterez avec nous. Peut-être que certains le savent avec une autre mélodie, enfin, un petit peu différemment. Enfin, apprenons comme on va l'apprendre maintenant, de tout notre cœur.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Exauce notre prière ce soir. Et que nous ne soyons plus les mêmes en sortant de cette réunion. Combien tu soupires après notre bonheur. Combien tu soupires après notre épanouissement. Et combien tu souffres de nous voir souffrir. Mais combien tu voudrais te réjouir de nous voir réjouis.
Aide-nous, Seigneur, à faire toute ta volonté, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Merci d'avoir exaucé notre prière. Amen.
Amen.
Gloire au Seigneur. Je crois que la prière de chacun d'entre nous est que Dieu nous utilise. Et si je devais donner un titre au message de ce soir, l'homme ou la femme que Dieu utilise. Comment être utilisé par Dieu? L'homme que Dieu utilise. Quel doit être le caractère de cet homme ou de cette femme? Et nous allons voir cela en lisant un passage dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Jésus sera notre exemple ce soir, notre modèle, et nous allons voir ce qui est dit là maintenant. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste, il parlait de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » qui ôte le péché du monde. Soulignez bien cette expression, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, sur l'agneau. L'Esprit s'est arrêté sur l'agneau. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre est s'arrêter. » C'est lui qui baptise du Saint-Esprit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Le Saint-Esprit sous forme d'une colombe est descendu et s'est arrêté sur Jésus qui est l'agneau de Dieu. Si la colombe est descendue et s'est arrêtée sur Jésus, c'est parce qu'il y avait en lui quelque chose qui attirait cette colombe, n'est-ce pas vrai? Et il y avait en Jésus, justement, le caractère de l'agneau. Comment être l'homme ou la femme que Dieu utilise? Nous devons avoir le caractère de l'agneau. Car c'est le caractère de l'agneau qui attire la présence de Dieu. Et non seulement qui attire sa présence, mais qui fait que cette présence reste sur nous. Car bien souvent la présence de Dieu est venue sur nous, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle est repartie parce qu'elle n'a pas trouvé le caractère de l'agneau en nous. N'est-ce pas vrai, chers amis? Car la colombe révèle un caractère d'une très grande sensibilité. C'est pourquoi nous devons manifester le caractère de l'agneau si nous voulons que le Saint-Esprit vienne sur nous, s'arrête sur nous et nous utilise. L'homme que Dieu utilise. Voyons donc dans l'agneau quelques caractères qui vont nous permettre de voir ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Si nous connaissons le caractère de l'agneau, alors nous saurons ce que Dieu veut de nous. Alors nous saurons agir et réagir de la bonne façon, n'est-ce pas vrai? Et j'aimerais vous donner les quatre caractères de l'agneau. Il y en a plus, mais quatre caractères qui définissent l'agneau. Et à cause de ces quatre caractères, l'esprit de la colombe était réjoui avec notre Sauveur bien-aimé. Quels sont donc ces quatre caractères que nous devons absolument cultiver en nous? Il est vrai que ces caractères ne sont jamais dans un état de perfection en nous, n'est-ce pas vrai? Mais nous devons cultiver ces caractères, et si nous le faisons, Dieu nous utilisera. Quel est donc le premier caractère de l'agneau ou d'un agneau? Premièrement, un agneau a un esprit qui ne peut faire du mal aux autres. Je répète ce que je dis, c'est le premier caractère, ça. Avez-vous vu un agneau? Bien sûr, n'est-ce pas? Quel est le premier caractère d'un agneau? C'est qu'un agneau ne peut pas faire du mal à qui que ce soit. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire, cela? Un agneau ne peut faire du mal à qui que ce soit. C'est donc un esprit extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu vienne et s'arrête sur nous, alors nous devons être connus comme des personnes qui ont un tel caractère qui ne font du mal à personne. Savez-vous que la personne qui fait du mal à personne, c'est la personne qui fait le plus du mal au diable? La personne qui ne fait pas du mal aux autres, c'est la personne qui fait le plus du mal au diable. Car s'il est vrai que nous devons manifester l'esprit de l'agneau devant les hommes, nous devons manifester l'esprit du lion devant le diable. Amen. Il ne faut pas oublier cela aussi. Dieu nous demande d'être un agneau devant les hommes, mais d'avoir l'esprit du lion devant l'ennemi. Certains ont inverti les rôles, malheureusement. Ils ont mal compris l'évangile ou ils ont mal lu ce qui est écrit. On a l'impression qu'ils sont plutôt des lions devant leurs frères, et devant le diable, on a l'impression que c'est des petits agneaux. Alors voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous utiliser. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est en train de vous utiliser. Savez-vous que par moments, nous pouvons être utilisés par le diable sans nous en rendre compte? Prédicateur ou chrétien, n'importe qui, s'il ne veille pas, à un moment donné ou à un autre, il peut être utilisé par le diable. Vous savez très bien, l'apôtre Pierre lui-même, un jour a une révélation extraordinaire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, Simon, fils de Jonas, ces choses ne viennent pas de toi-même, c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a révélé ces choses. Il a donné une prophétie extraordinaire, vous êtes d'accord avec moi? C'était une prophétie extraordinaire. Si vous lisez le passage qui suit ce qu'il a dit, un tout petit peu plus loin, quand Jésus a commencé à parler de ses souffrances, de son reniement, de sa rejection, alors Pierre est intervenu, mais malheureusement cette fois il n'était plus inspiré par l'Esprit de Dieu. Quand il lui a dit cela, Jésus, ne t'arrivera pas. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines.
Voyez-vous qu'à un moment donné, nous pouvons être sous l'inspiration de l'esprit et à un autre moment, nous pouvons être inspirés par l'ennemi? Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas compris quelque chose que nous devons tous comprendre. Et j'espère que ce message nous aidera à saisir cela. Premièrement, le premier caractère d'un agneau, c'est un esprit qui ne peut pas faire du mal. Quelqu'un a dit un jour, rendre le mal pour le bien, c'est diabolique. Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un vous fait du bien et que vous lui rendez du mal, ça c'est diabolique. Rendre le mal pour le mal ou le bien pour le bien, ça c'est humain. Beaucoup vivent à ce niveau-là. Et même certaines personnes vivent au niveau que je vous ai donné tout à l'heure. Ils sont tellement jaloux et orgueilleux que lorsque vous faites du bien, ils sont tout le temps inspirés à vous faire du mal. Si vous rendez toujours le mal à quelqu'un qui vous fait du bien, vous êtes inspiré par le démon. Si nous rendons le bien pour le bien ou le mal pour le mal, ça c'est humain. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu me fais du mal, je te fais du mal. C'est normal. Vous voyez, on dit encore, c'est normal. Et c'est juste, on dit. Voyez-vous notre justice à nous? C'est juste, c'est normal. C'est la justice. Ah oui, quelle justice? Surtout pas la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit bien, ne rendez pas le mal pour le mal. Alors, qu'est-ce qui est divin? Nous avons vu le diabolique, nous avons vu l'humain et voyons le divin. Le divin, c'est rendre le bien pour le mal. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous lui rendez le bien. Cela, c'est divin. Et voilà le caractère de l'agneau. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire du mal, mais qui ne fait que du bien. Alléluia. Alors bien sûr, nous sommes souvent loin de cela. Mais il est bon de voir un peu ce que Dieu attend de nous. Et si nous savons surmonter le mal par le bien, l'Esprit de Dieu nous viendra toujours en aide pour accomplir cela. Amen. Ce sont des choses impossibles humainement, mais glorieusement possibles avec la puissance du Saint-Esprit. À quel niveau vivez-vous, mes chers amis? À quel niveau? Quel est le niveau que vous manifestez? C'est à vous de réfléchir et d'obéir à ce que Dieu vous demande. C'est donc là le premier caractère de l'agneau. Il ne peut faire du mal. Malheureusement, certaines personnes, certains chrétiens sont connus comme des gens. Aïe, 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 aïe. À peine vous rentrez en contact avec eux, vous ne savez pas la tuile qui va vous arriver. Vous ne savez pas ce qui va leur arriver, ce qui va vous arriver. Deuxièmement, le deuxième caractère de l'agneau maintenant. Un agneau, vous le savez comme moi, est l'image même de la faiblesse. Autrement dit, le deuxième caractère qui était en Jésus et qui doit se trouver en nous, c'est un esprit qui réalise sa faiblesse. Cela, c'est quelque chose que nous avons de la peine à accepter, n'est-ce pas vrai? Et cependant, un agneau est l'image même de la faiblesse. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'il en soit ainsi? Premièrement, Dieu veut que sa puissance s'accomplisse dans la faiblesse pour une première raison. Il veut que nous réalisions qu'il n'y a rien de bon en nous. L'apôtre Paul a dit « Misérable que je suis ». Certains ont la révélation et ils disent « Misérable que tu es ». Et ils n'ont pas encore compris qu'ils sont misérables eux-mêmes. Certains ont vraiment de drôles de révélations. Mais pourquoi Dieu veut qu'on réalise notre faiblesse? Pour réaliser que nous ne sommes rien nous-mêmes. Ésaïe lui-même, ce prophète, c'est seulement au chapitre 6 que Ésaïe a eu cette révélation. De l'impureté de ses lèvres. Avez-vous réfléchi? Il a écrit avant cela 5 chapitres. Il avait prophétisé avant cela. Nous pouvons être utilisés par Dieu pendant 5 chapitres, pendant 5 jours, pendant 5 ans, pendant 50 ans, nous pouvons être utilisés par Dieu. Et cependant, ne pas avoir encore la révélation que nos lèvres sont impures. N'est-ce pas vrai, chers amis? Et un jour dans le temple, lorsque la gloire de Dieu s'est manifestée, malheur à moi, car je suis perdu. Et mes lèvres sont impures, car j'ai vu le roi dans sa grandeur et dans sa majesté. Et je suis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Peut-on de telles révélations? Ils ont toujours la révélation de l'impureté de l'autre. Des lèvres impures de l'autre, mais ils n'ont pas leur propre révélation. Voilà pourquoi Dieu veut que nous réalisions notre faiblesse, ma faiblesse. Et quand un homme a vu exactement qui il est, je vous assure, il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Misérable que je suis, malheur à moi. Avez-vous déjà dit sur vous-même, malheur à moi, car je suis un homme impur, aux lèvres impures. Pas seulement, oh, oui, frère, oui, j'ai péché, oui. Mais l'orgueil est encore au fond de nous-mêmes. Mais cette révélation apporte un réel brisement dans le fond de notre cœur. Oh, combien j'en ai besoin encore davantage, et combien nous en avons besoin, n'est-ce pas vrai? Je crois que c'est un des plus grands besoins à l'heure actuelle. L'homme se glorifie trop, et on a détrôné le Seigneur. L'homme a pris la place de Dieu. Chacun est en train de se vanter de lui-même. Un agneau est faible, un esprit de faiblesse. Mais premièrement, quant à nous-mêmes, quand on a compris cela, alors je vous assure, Dieu commence à nous utiliser. Amen. Comme je le dis souvent un petit peu, j'ai été en Afrique, vous savez, comme missionnaire, et quand je suis parti, je pensais tout casser là-bas. Mais arrivé sur place, c'est Dieu qui m'a cassé. Mais Dieu soit béni. Il faut qu'il casse encore un peu plus. Il y en a besoin, il y en a besoin. Deuxièmement, pourquoi nous devons réaliser cette faiblesse? Pour être plus tolérants à l'égard des autres. Amen. Savez-vous comment vous pouvez savoir si vraiment vous êtes brisé? C'est d'après votre attitude à l'égard des autres. En général, un homme qui n'est pas brisé ne supporte pas chez les autres la faute qui est en lui-même. Quand on est dur avec les autres sur le même péché que nous faisons nous-mêmes, nous révélons par là que nous ne sommes pas brisés. C'est notre attitude à l'égard des autres qui révèle si nous sommes vraiment brisés. Tandis que l'homme qui a vu sa faiblesse, qui a vu sa souillure, qui a vu son impureté, est une personne qui est beaucoup plus tolérante. Je ne veux pas dire par là qu'elle accepte et justifie le péché, loin de là. Parce que cette personne a pleuré sur le péché. Mais elle est plus tolérante. Elle comprend davantage l'autre. Et ne se vante pas de ce qu'il est pour pouvoir mieux aider la personne. Autrement dit, Dieu veut que nous expérimentions cette faiblesse en nous-mêmes pour mieux comprendre l'autre, pour être beaucoup plus compatissant, plus patient, plus persévérant. Si nous avons vu qu'il n'y a rien de bon en nous-mêmes,
Alors, à l'égard des autres, nous patienterons davantage, n'est-ce pas vrai? Troisièmement, pourquoi Dieu veut que nous soyons faibles? Parce que c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est au sein même de notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Ah, vous dites, frère, moi alors je suis vraiment faible. Mais gloire à Dieu, alors c'est justement, vous êtes dans un bon état. Vous êtes justement la personne qu'il faut. Ah, oh, si vous saviez combien je suis faible, frère. Si vous saviez, mais gloire au Seigneur. Dieu n'utilise que les faibles. Si vous étiez trop conscient de vous-même, de vos capacités, de vos dons, de vos expériences, Dieu ne pourrait pas vous utiliser. Mais la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Avant de venir, je lisais le témoignage d'un pasteur qui avait prêché un soir à la réunion et s'en est retourné chez lui complètement découragé. Il n'y avait pas eu de résultat. Il était vraiment abattu, déprimé. Et il se demandait même s'il n'allait pas quitter le ministère. Il a dit, c'est mon ministère est un échec, ça ne va pas du tout. Et alors qu'il dormait, tard dans la nuit, quelqu'un sonne à la porte. Il descend, et c'était celui qui dirigeait la chorale dans son église. C'était un homme très sceptique, qui s'opposait à tout ce qu'il faisait. Et il s'est approché de lui et il lui a dit, jamais comme à la réunion de ce soir, je n'ai vu mon cœur comme il l'était véritablement. Je suis perdu. Et si quelque chose ne se passe pas maintenant, alors je vais mourir comme cela. S'il vous plaît, priez pour moi. Et cet homme, bien sûr, a été aidé par le pasteur. Et il a été sauvé. Mais ensuite, on a demandé à cet homme, qu'est-ce qu'il avait touché ce soir-là? Et il a dit ceci, ce ne sont pas les paroles du prédicateur qui m'ont touché, mais c'est l'esprit dans lequel il prêchait. C'est l'urgence qu'il y avait dans sa voix qui m'a touché. Et j'ai vu véritablement qu'il m'aimait, qu'il nous aimait, qu'il voulait nous sauver, qu'il voulait nous apporter la bénédiction de Dieu. Et c'est cela qui a touché mon cœur. Je n'ai pas pu résister à son esprit. Mais comment la puissance de Dieu s'est-elle manifestée? Dans son extrême faiblesse, n'est-ce pas vrai? Dans son extrême faiblesse, il pensait que c'était un échec, sa vie, son ministère. Et cependant, au sein de cette grande faiblesse, la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Alors ne vous découragez pas quand Dieu révèle votre faiblesse. Il faut tout simplement, dans cette révélation-là, dire, Seigneur, eh bien, ta puissance s'accomplira dans ma faiblesse. Et c'est ainsi que ton nom sera glorifié, et non moi-même. Amen. Un esprit qui réalise sa faiblesse, voilà l'homme que Dieu utilise. Un troisième caractère qui correspond à l'agneau maintenant. Vous le savez comme moi, l'agneau dans la Bible est destiné au sacrifice, n'est-ce pas? Autrement dit, il y a un troisième caractère qui est là, c'est que le caractère de l'agneau est un esprit qui doit se préparer à souffrir. Alors cela, bien sûr, nous ne voulons pas en entendre parler. Nous voulons bien que Dieu nous bénisse. Nous voulons bien faire des miracles. Nous voulons bien chanter. Nous voulons bien danser. Nous voulons faire toutes sortes de choses, mais souffrir, non! Et parce que nous ne voulons pas souffrir, l'Esprit de Dieu est limité et la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester comme il le voudra. Savez-vous que c'est le premier message qu'Ananias a donné à Paul? Vous le savez comme moi, n'est-ce pas? Quand Dieu s'est révélé à Ananias, il lui a dit, va maintenant, va trouver ce nommé Saul de Tarse là-bas. Va, car il prie. Et Dieu lui a dit, va vers lui. Il ira, dis-lui qu'il sera un témoin. Dans les nations, chez les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Vous vous rendez compte? à peine converti, Dieu lui dit déjà que tu dois souffrir. Oh, si à notre conversion, si à notre baptême dans le Saint-Esprit, on comprenait et on acceptait ce message, alors je vous assure, il y aurait beaucoup moins de déceptions, il y aurait beaucoup moins de confusion et beaucoup moins de déchets au milieu de nous. Un esprit qui est prêt à souffrir. Il y a deux raisons pour cela. Pourquoi nous devons souffrir? Deux raisons. Premièrement, parce que c'est une grâce. Et cela, nous ne l'avons pas compris. Beaucoup d'entre nous, quand nous voyons quelqu'un qui a des difficultés, on dit « celui-là, Dieu n'est pas avec lui ». Avez-vous remarqué? On a des drôles d'idées parfois. Il suffit qu'un chrétien ait que ça n'aille pas bien dans sa vie, enfin, qu'il y ait des difficultés. On dit « celui-là, si Dieu était avec lui, alors il n'aurait pas de difficultés ». Donc, s'il a des difficultés, c'est que Dieu n'est pas avec lui. En vérité, c'est peut-être le contraire. C'est parce que Dieu est avec lui qu'il a des difficultés. Je vous assure, si vous n'avez jamais eu des difficultés, si vous n'avez jamais souffert à cause de votre foi, alors il faut se demander vraiment si vous avez la vraie foi. Premièrement, c'est une grâce. Ne regardons pas cela comme une catastrophe, mais comme une grâce. C'est ainsi que les premiers chrétiens considéraient la souffrance. Vous vous souvenez quand ils ont été persécutés aussi dans l'église primitive, et on leur a dit maintenant, vous ne devez plus prêcher au nom de Jésus. Et eux, ils s'en retournèrent chez eux. Et il est dit qu'ils se considérèrent comme un privilège, comme digne d'avoir souffert pour Jésus. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Autrement dit, pour eux, c'était un honneur. Si nous commençons à considérer la souffrance pour Jésus dans notre vie comme un honneur, alors la souffrance ne sera plus un épouvantail pour nous, mais une réelle bénédiction. Amen. C'est une grâce. Si vous êtes appelé à souffrir, c'est une grâce. Une deuxième raison maintenant, l'apôtre Pierre lui-même le dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Il dit lui-même, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et ensuite, et c'est à cela que vous avez été appelés. Donc la deuxième raison, c'est que c'est notre appel. On est appelé à souffrir. Et l'apôtre Paul lui-même à Timothée lui disait, tu as vu mes souffrances, tu as vu mes persécutions, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Donc deux raisons qui font que nous devons accepter la souffrance pour le Seigneur, c'est que c'est une grâce, un honneur. Et ensuite, c'est notre appel. C'est une vocation. N'est-ce pas extraordinaire cela? Et quels sont les... Je vais vous donner trois fruits de la souffrance maintenant. Quand quelqu'un commence à souffrir, le premier fruit est celui-ci, c'est que Dieu produit en lui le fruit de la douceur. Il est tellement brisé, malaxé, remué, que Dieu brise en lui tout ce qui est dur. Et je sais que moi-même j'avais besoin de cela. Combien de fois j'ai souffert de la dureté de mon propre cœur, aussi bien à l'égard de ma femme, de mes enfants, que dans la prédication. Et je ne m'estime pas encore un expert, mais j'essaye de faire des progrès dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose qui me faisait beaucoup souffrir. Jusqu'à ce que Dieu commence un peu à briser tout cela, à essayer de manifester plus de douceur. Je bénis le Seigneur pour toutes ces souffrances qui produisent ce fruit de la douceur. Si nous acceptons la souffrance comme venant de Dieu, bien sûr. Sinon, si nous nous rebellons contre le chemin et les épreuves contre lesquelles Dieu veut nous passer... Alors qu'est-ce qui se passe? La souffrance, au lieu de nous adoucir, nous endurcit. Un deuxième fruit maintenant que la souffrance pour le nom de Jésus produit, c'est l'humilité. L'humilité. Beaucoup d'entre nous, si notre chemin était trop facile, on pourrait plus nous parler depuis longtemps. On relève trop facilement la tête, on se gonfle trop facilement. On serait perdu par nos propres bénédictions. et la souffrance produit l'humilité. C'est à cause de ces grandes révélations que l'apôtre Paul a passé par de grandes souffrances, de peur que son cœur ne s'enorgueillisse. Et nous avons tous besoin de passer par là. La souffrance fait ce travail. Et Dieu veut pulvériser en nous toute trace d'orgueil. Tout ce qui essaie encore de se montrer, de se comparer aux autres, de juger les autres, d'humilier les autres, de critiquer les autres. Alors si nous sommes dans cet esprit-là, la souffrance est le seul chemin, est le seul moyen que Dieu va utiliser pour briser en nous tout orgueil. Et un troisième fruit merveilleux, la souffrance produit la vie. L'apôtre Paul lui-même le dit, la mort agit en nous et la vie agit en vous. J'ai dit l'homme que Dieu utilise. D'une manière générale, lorsque nous lisons et la Bible et l'histoire de l'Église, les personnes qui ont été le plus en bénédiction à l'Église et au monde, ce sont des personnes qui ont profondément souffert. La mort agissait en eux. Ils paraissaient comme des vauriens. Ils étaient littéralement méprisés, rejetés par qui que ce soit. Mais quand cette mort agissait en eux, la vie se manifestait chez les autres. Et ils étaient des hommes qui communiquaient la vie aux autres. Sans souffrance, vous ne communiquerez jamais la vie aux autres. Et vous communiquerez la mort. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous utiliser, certains, parce que nous refusons de passer par ce chemin. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses, n'est-ce pas? Mais si vous voulez que Dieu vous utilise, c'est le chemin étroit, mais c'est le chemin glorieux. Amen. Alléluia. Alors, quand on voit que la vie se manifeste chez les autres, peu importe les difficultés par lesquelles nous passons, quand on sait que les autres sont bénis, ça vaut la peine, n'est-ce pas vrai? Ça vaut la peine que Dieu soit béni. Et je termine maintenant par le quatrième caractère de l'agneau. Je l'ai dit tout à l'heure que l'agneau servait au sacrifice. Il y avait aussi, dans les sacrifices, le sacrifice de culpabilité. Autrement dit, celui qui a l'esprit de l'agneau, comme il est dit dans Ésaïe 53, Jésus a intercédé pour des coupables. Autrement dit, l'esprit de l'agneau en nous intercédera pour des coupables. L'agneau servait à cela. Ce n'était pas une offrande pour juger, condamner, détruire les autres. C'était au contraire une offrande qui servait à intercéder pour les autres et pour les coupables. N'est-ce pas merveilleux cela? Et si nous voulons que Dieu nous utilise, Dieu va mettre dans notre cœur cette intercession pour des coupables. Il y a trois sortes d'intercession, et je termine par cela. Il y a premièrement l'intercession pour nous-mêmes. Nous passons tout notre temps intercéder pour nous-mêmes ou pour nous justifier devant Dieu. Alors bien sûr, cette intercession n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Deuxièmement, il y a une autre intercession. Nous intercédons, oui, mais pour les innocents, pas pour les coupables. Avez-vous pensé à cela? Dans vos prières, combien y a-t-il de personnes qui sont véritablement coupables, jugées, condamnées? Beaucoup d'entre nous, nous n'osons même pas nommer ces personnes parce qu'elles sont coupables. Et nous nommons que les innocents. Où est l'esprit de l'agneau à ce moment-là? Où est l'esprit du sacrifice? Tandis que le véritable esprit d'intercession, c'est celui qui intercède pour les coupables. Alléluia! Qui se tient entre Dieu et le coupable et qui dit, ô Seigneur, je te demande de sauver ce coupable, de guérir ce coupable, de relever ce coupable, même si je devais moi-même être sacrifié. sacrifié pourvu que l'autre soit béni. Amen. Voilà la prière de Moïse. Seigneur, sauve ton peuple, sinon retire-moi du livre de vie. Nos prières sont souvent l'inverse. Seigneur, sauve-moi, peu importe ce qui arrive aux autres. Après moi, c'est le déluge, tant pis. Mais Seigneur, bénis-moi, sauve-moi, justifie-moi, console-moi, bénis-moi, guéris-moi, peu importe ce qui arrive aux autres. Mais nous ne pouvons pas intercéder pour les coupables sans d'abord pardonner aux coupables. Et lorsque je méditais dans la chambre, j'ai pensé à Étienne. Vous vous souvenez d'Étienne? C'était un homme rempli de l'esprit, lapidé. Et devant ses ennemis, il est dit que les gens virent qu'il avait comme un visage d'ange. Devant ses ennemis, il avait comme un visage d'ange. Cela veut dire que même lorsque ses ennemis l'accusaient, le rejetaient, le lapidaient, il n'y avait rien en lui qui les condamnait. Au contraire, il a fini par une prière magistrale. Seigneur, reçois mon esprit et ne leur impute pas ce péché. Dieu a exaucé sa prière et par cette prière, il a sauvé le plus grand des prédicateurs du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. L'esprit d'intercession pour les coupables passe toujours par le pardon. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne pourra pas exaucer notre prière. C'est impossible. Mais lorsque nous pardonnons au coupable, alors Dieu délivre le coupable. Amen. Mais lorsque nous le condamnons dans la prière, comment voulez-vous que Dieu agisse? Il n'agira jamais. Si tu veux que ton mari soit béni, arrête de le condamner dans la prière. Commence à lui pardonner d'abord. Arrête de dire, oh Seigneur, tu vois comment mon mari, c'est un pauvre type. Il a la tête dure. Il comprend rien du tout. J'espérais qu'il allait comprendre quelque chose ici pendant cette retraite, mais c'est encore pire maintenant. Seigneur, si tu fais pas quelque chose, je sais pas ce que je vais devenir. Oh, je regrette. Il y avait l'autre là-bas qui m'avait demandé en mariage. Depuis longtemps, j'avais envie d'y aller, mais... Et on dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas parce qu'il marchait? Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi tu es encore sur la terre, toi, après des telles prières. C'est encore la grâce de Dieu qui te tient. Et vice-versa. Il n'y a pas de prière d'intercession pour le coupable sans pardonner au coupable. Et Dieu fera, lui, le miracle et l'impossible. Amen. Amen. Voilà l'homme que Dieu utilise. L'homme qui est prêt à prier pour les coupables. Pour ceux qui ne valent rien, qui ne valent rien, qui ne sont rien du tout. Mais l'intercession efficace provient d'un cœur qui a d'abord pardonné. Pardonné. Et alors, Dieu fait le miracle. Amen. Que son nom soit béni. L'homme que Dieu utilise, le Saint-Esprit est descendu sur l'agneau de Dieu. Voulons-nous manifester ces caractères de l'agneau? Je vous assure, Dieu vous utilisera comme il l'a jamais fait. Voulons-nous nous incliner dans la prière quelques instants maintenant? Si Dieu a parlé à notre cœur, nous allons avoir un moment de prière. Car lorsque Dieu nous parle, il nous demande une chose, c'est l'obéissance. S'il y a un domaine dans lequel vous devez changer, s'il vous plaît, obéissez à sa voix, non pas à la mienne. Et Dieu vous bénira richement. Si vous avez prié pour quelqu'un sans lui pardonner, pardonnez maintenant. Et Dieu vous donnera un fardeau extraordinaire et votre prière sera exaucée. Seigneur, nous sommes devant ta face. Comme le Saint-Esprit est descendu sur toi, parce que tu avais ce caractère de l'agneau, Seigneur, tu le fais descendre sur nous. Sur ceux qui veulent manifester ce caractère. Car la colombe recherche la nature de l'agneau et bénit ces personnes et les utilise. Seigneur, bénis ton peuple qui obéit à ta voix ce soir. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles et tu veux
utiliser des hommes et des femmes pour ta gloire. Merci, Seigneur. Restons dans la prière quelques instants. Si Dieu vous met à cœur de prier, faites des prières courtes, chacun pour soi-même. Ouvrons notre cœur au Seigneur et Dieu agira en nous. Et si l'Esprit de Dieu veut nous donner quelque chose, un message ou quoi que ce soit, laissons-lui toute la liberté de se manifester. Honorons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Alléluia.